Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver sur Esprit Occitanie pour une nouvelle émission, l'oreille sur l'actu. Je m'appelle Bastien Lemieux, je suis accompagné de Lilou Saint-Viteux et Shana Oudjani.
Bonjour Bastien, bonjour tout le monde.
Alors je vais un peu présenter l'émission. Donc le but est simple, c'est aborder l'actualité internationale, nationale, européenne et locale à travers le regard de jeunes personnes. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à l'actu et nous devons parler de choses qui se passent en temps réel. Les stagiaires deviennent animateurs le temps d'une émission. Donc déjà, il faut rappeler qui nous sommes. Donc Lilou, je te laisse rappeler qui nous sommes.
Alors bonjour, je suis Lilou Saint-Viteux et je fais partie de l'école ISJT. Comme nous trois. Et nous sommes rue de la Colombette à Toulouse, pour ceux qui sont intéressés. Et effectivement, je suis ici à Esprit Occitanie pour m'entraîner dans mon futur métier.
Oui, tu as totalement raison, tu as tout dit Lilou. Nous sommes trois stagiaires qui aujourd'hui allons prendre le rôle d'animateur et de journaliste en radio pour nous entraîner pour notre futur. Du coup, nous allons donner, entre guillemets, une touche de fraîcheur en parlant des européennes, de l'actualité nationale, locale et internationale.
En espérant qu'on soit bon.
Et je rappelle évidemment que la parité sera respectée, car nous allons tourner à chaque fois d'animateurs et animatrices.
Bien sûr.
Donc, on va parler de l'actualité, soulever les fonds, comprendre les questions et les enjeux. Les jeunes parlent actu, les jeunes donnent le ressenti, c'est sur Radio Occitanie. Premier sujet, on va s'intéresser à l'Europe. L'Europe, mais qu'est-ce que l'Europe? Vous allez me dire, oui, bon, c'est un continent, mais qu'est-ce que cette communauté continentale appelée l'Union Européenne? Ma grand-mère me dit souvent que pour comprendre quelque chose, il faut remonter jusqu'aux racines. Alors plongeons-nous, si vous le voulez bien, en 1944. L'Europe sort du pire conflit de son histoire, la Seconde Guerre mondiale. Le vieux continent est au plus mal, ville détruite, idéologie bafouée, génocide insupportable. Un sentiment de honte si puissant que les mots seront clairs, nets et précis. Plus jamais ça. Au fil des années, la volonté de créer une Europe unie est de plus en plus importante. Après tout, nous sommes plus forts quand nous sommes unis, n'est-il pas? Il faut avancer à force de toujours imaginer le pire, nous n'avons plus rien à se dire, plus rien pour faire rire. Comme le Rome, l'Union Européenne ne s'est pas faite en un jour. Accueillons dans notre récit deux personnages, par ailleurs deux Frenchies, Robert Schuman et Jean Monnet. Ces deux personnalités politiques ont un rôle de pilier dans la construction européenne. En 1950, les deux compères mettent en place un plan, appelé Plan Schuman, qui a pour but de proposer la mise en commun des ressources françaises et allemandes concernant le charbon et l'acier au sein d'une organisation ouverte également aux autres pays d'Europe. L'idée est d'unifier une Europe pour la rendre pacifique et dans les starting blocks. L'année suivante est donc créée, après le traité de Paris, donc l'année suivante en 1951, la CECA. Donc la CECA, c'est quoi? C'est la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 6 pays vont alors signer le traité. J'ai nommé la France, on est chauvin, on se cite en premier. L'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et le Pays-Bas. Bon, vous remarquerez que les Anglais n'ont pas signé le traité, mais nous reviendrons sur leur cas après. Passons un peu le temps, rendez-vous au chapitre 2. J'ai nommé la CEE. Comment réunir des peuples pour créer une entente pacifique au sein d'un continent qui a connu les pires conflits? Comment on fait? Par le commerce, évidemment. La CEE, de son nom la Communauté économique européenne, est fondée en 1957. Fini l'unique gestion du charbon et de l'acier, il est l'heure de placer sur la table des négociations économiques fortes. Par contre, on garde les mêmes pays. En 1968, et même supprimer les droits de douane des pays membres. La difficulté n'a plus sa place. On veut élargir les frontières en les supprimant. Après, 6 membres, ça, c'est assez peu, quoi. Ça fait un petit comité restreint, hein, une soirée assez courte. Quand on a l'intention d'en faire un événement majeur, c'est pas top top, quoi. Le premier élargissement de la CE a lieu en 1973, comme diraient nos amis belges. On ramène nos amis des pays du Nord, l'Irlande, le Danemark et enfin le Royaume-Uni, qui après avoir boudé les précédentes invitations, a enfin décidé de se présenter au projet européen. Au fil des années, plusieurs élargissements sont à noter avec des pays comme la Grèce en 1981 ou l'Espagne et le Portugal en 1986. Attends, 1, 2, 3, 4... Ouais, ouais, c'est bien ça, on se retrouve à 12, le nom est tout trouvé, l'Europe des 12. Notre bon vieux continent retrouve des couleurs et ça fait du bien. Cela faisait plusieurs années qu'elle était toute pâle. Le mur de Berlin tombe en 89 et tout un pays se redresse et retrouve sa communion d'antan. L'Europe va mieux, mais l'Union Européenne, justement. Eh ben, on y vient justement. Connaissez-vous le traité de Maastricht ? Le traité...
Oui, on l'a appris en histoire, effectivement.
Je me souviens des cours, 1992, le traité de Maastricht.
C'est ça, donc comme tu dis, en 1992, c'est la date qu'il faut retenir. Bam, 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 le traité de Maastricht, la CE n'est plus, l'UE devient. Et c'est depuis cette date que notre Union européenne est devenue celle qu'on connaît. À l'heure actuelle, l'Union européenne compte 28 pays. Voici un petit peu l'histoire qui retrace donc notre Union européenne. Dis-moi Shana, tu as posé des questions dans la rue aux gens ?
Oui, nous savons que l'Europe est un sujet qui fait débat chez les gens. Et du coup, je me suis rendue en ville pour faire un petit micro-trottoir et poser la question à une personne si elle allait voter aux prochaines élections européennes.
Eh bien, on écoute ça et on discute après.
Bonjour, allez-vous voter aux prochaines élections européennes ?
Oui, c'est important. Nous vivons dans un État démocratique. Nous avons de la chance, et en plus de ça, de voter, car c'est un droit et un devoir d'un citoyen. De plus, l'Union européenne respecte l'environnement et l'écologie.
Donc, Shana, qu'est-ce que tu penses de ce que dit la personne ?
Je pense que la personne que j'ai interrogée a mis l'accent sur le fait que l'Union européenne respecte l'environnement et l'écologie. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons respecter avec les COP que nous connaissons, la COP 21, la COP 22, la COP 23 et bientôt la COP 24, qui se déroulent dans chacune des capitales et des villes de France. D'Europe, pour le coup. Car c'est quelque chose d'important que nous devons de respecter.
J'ai une question pour vous deux et même pour moi. Vous êtes donc... on est tous majeurs ici.
Et vaccinés.
Tout à fait. Est-ce que vous allez voter aux prochaines élections ? Est-ce que vous comptez y aller ?
Je pense aussi que, comme a dit la personne que j'ai interviewée, c'est très important de voter en tant que citoyen de France, citoyen d'Europe et citoyen du monde. C'est très important de voter car c'est un droit que nous avons et pour le peu de droits que nous avons, nous devons les appliquer.
Le peu de droits, tu vas un peu loin quand même.
Oui, mais bon, nous savons que nous sommes dans une société un peu...
complexe.
Voilà, c'est un autre
libéral,
sujet. Peut-être.
Bah moi personnellement j'aimerais bien, mais pour le moment je suis pas assez renseignée et je pense que ces élections ça sera un peu trop tard, ou peut-être en refaisant toute l'histoire de l'Europe ici à cette émission je serai bien renseignée et j'irai finalement voter, je ne sais pas, en tout cas je me renseignerai d'abord, ça sera mieux.
Rappelons évidemment que les Européennes ont connu la dernière fois un taux d'abstention de plus de 50%. On va maintenant passer une petite pause musicale avant de passer après à la revue de presse, donc Lilou, Shana, qui nous ont trouvé des petits sujets qu'on peut parler. Donc, parle-nous de ton choix, Shana.
Bah alors moi, j'ai choisi un morceau rap, de rap français, pour faire référence à l'émission qui passe à Esprit Occitanie, l'Open Rap, avec Léo Molinier. Du coup, c'est... j'ai choisi l'artiste qui est Nino. C'est un artiste qui vient de Paris et qui, après avoir sorti 4 mixtapes, il sort son premier album studio qui s'intitule Comme prévu. Le 8 septembre 2017, l'album se classe numéro 1 en France des ventes fusionnées, donc physique, téléchargement, streaming. La semaine du 15 septembre 2017, avec 30 843 équivalents de ventes, et se voit certifié triple disque d'or de platine, donc triple disque de platine, excusez-moi.
Tu vas y arriver.
Merci. Et du coup, oui, donc je pense que vous voyez bien que un disque de platine, c'est quand même un gros morceau. avec plus de 300 000 ventes. Et parmi les titres de l'album, celui que j'ai choisi de nous faire écouter aujourd'hui, c'est Caramello. Par contre, il fut supprimé de toute plateforme de streaming et on le trouve que sur YouTube, si vous voulez
Pourquoi
l'écouter.
Pourquoi donc ? Tu as une explication ?
Ben justement, c'est que sa partie instrumentale était similaire à celle de la chanson Anything to Synthesis du groupe The American Dollar, si vous connaissez. Allez,
bon, on écoute Caramello de El Niño.
Le compte est le moral à zéro, je revends le caramello. Le compte est le moral à zéro, je revends le caramello. Je revends le caramello. Génération AZXTN, si c'est pour la famille, je le fais. Les ennemis attaquent par devant, donc surveille les amis de près. Je les ai vus brasser et nager le crawler. Et c'est sous écrou qu'il s'écroule. Personne n'est là quand c'est dramatique, tout le monde est là quand c'est drôle. Le fusil calé sur l'épaule, prêt à faire la guerre à tous les humains du monde. Les yeux rouges dans le bloc, la peuf me fait cogiter. Dans toutes les soirées, plus éviter que inviter. Plus éviter que inviter. Avance-moi un ballon, que j'aille sur le terrain les dribbler. J'ai grandi entre les coups de schloss, Poucave, guerre de renté. Un fiston qui n'écoute pas, une daronne trop inquiétée. Très sales sont nos histoires, et nombreuses sont nos victoires. Arme à feu dans le tiroir, mais le miroir me dit d'y croire. J'ai grandi entre les coups de schlasse, Poucave, garde rentée. Un fiston qui n'écoute pas, une daronne trop inquiétée. Très sales sont nos histoires, et nombreuses sont nos victoires. Arme à feu dans le tiroir, mais le miroir me dit d'y croire. La PJ enquête, c'est R sur CR, c'est nous qui veulent couvrir. Le bobe est puissant, je m'en tire avec du sursis au procès. Elle a vu ma veste, des millions de vues, elle a senti l'oseille. Trois trous dans le bonnet, une paire de gants, c'est comme ça qu'on procède. Voler qu'on briolait pendant qu'il dort. 40 degrés au soleil, je suis à Benidorm. Et j'écoute ces mythomanes nous parler de tonnes. Je viens tout en bas, je monte tout en haut, maman je te le promets. D'où vient ta pointe, à qui c'est ta tante, tu connais le proverbe. Je sais pas ce qui va m'arriver. Mais tout ce que je sais, moi, c'est que les clients ont le bout du zen enfariné. Et que les plus armés font la loi. J'ai grandi entre les coups de schlass, Poucave, guerre de rentée. Un fiston qui n'écoute pas, une daronne trop inquiétée. Très sales sont nos histoires, et nombreuses sont nos victoires. Arme à feu dans le tiroir, mais le miroir me dit d'y croire. J'ai grandi entre les coups de schlass, Poucave, garde rentée. Un fiston qui n'écoute pas, une daronne trop inquiétée. Très sales sont nos histoires, et nombreuses sont nos victoires. Arme à feu dans le tiroir, mais le miroir me dit d'y croire.
C'était donc Caramello de Nino, le choix de Shana. Donc Shana, je me tourne encore vers toi.
Oui.
Tu vas donc nous parler d'un sujet sensible qui se passe aux États-Unis et puis...
Plus précisément
au Texas, exactement. Merci à toi. Je te laisse en parler.
Oui, comme tu l'as dit, au Texas, un projet de loi pourrait rendre l'avortement passible de la peine de mort.
Ah, carrément.
Ah oui, c'est complètement ahurissant.
Donc tu vas nous balancer un extrait d'un micro-trottoir que tu as...
Exactement, tu as fait hier. Je suis allée rencontrer des gens qui ont donné leur avis. Bonjour. Au Texas, un projet de loi pourrait rendre l'avortement passible de peine de mort. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bonjour. Je pense que c'est un projet de loi totalement contre nature.
C'est-à-dire que ça va à l'encontre des droits des femmes et des droits fondamentaux de l'humanité.
C'était donc un témoignage d'une jeune femme qui avait quelque chose à dire et qui l'a dit avec une certaine détermination. Donc, toi, tu te sens concerné évidemment par ce sujet. Ça t'attriste vraiment ce qui se passe là-bas ?
Mais, étant une femme, bien sûr que je me sens concernée. J'ai l'impression que ce qui se passe relève d'un bond en arrière de plusieurs années. Alors déjà, en France, nous savons que la peine de mort a été abolie, ainsi qu'aux États-Unis.
Pas dans tous les États.
Selon les États, bien sûr. Et je pense que des femmes comme Simone Veil, qui se sont battues en France, et d'autres femmes qui se sont battues dans le monde entier pour nous accorder ce droit qui est de disposer de notre propre corps. Et c'est complètement choquant.
C'est vrai que pour nous, nouvelle génération sur ce monde, c'est très difficile d'imaginer qu'on peut vivre avec une menace de mort si on pratique l'IVG. Nous, on a toujours vécu avec l'IVG. Ça nous semble impensable déjà qu'il y ait la peine de mort et aussi qu'il y ait l'IVG. Et c'est vrai que le Texas, par exemple, est un État des États-Unis très conservateur. Et là, qui conservateur, mais là, c'est de la régression. Je suis d'accord avec toi.
Totalement.
Et ça m'attriste aussi fortement. Et je me demande comment une mesure comme ça peut passer, par exemple, comme ça, quoi. Comment ça peut se faire ?
Oui.
C'est ahurissant.
Bien sûr, comme tu l'as dit, nous sommes une nouvelle génération qui n'a pas connu la guerre, la misère avancée, où nous avons toujours connu l'IVG. Nous savons que s'il se passe quelque chose, nous pouvons disposer de notre corps comme nous l'entendons. Mais le fait de qu'il y ait une telle régression, c'est
ça fait peur.
Ça fait peur, exactement.
On peut se dire, on a le droit de se demander, est-ce que des pays européens peuvent faire des retours en arrière dans les années à venir avec le montée du conservationnisme en Europe et par exemple de la droite, de l'extrême droite, quoi.
Bien sûr, il y a des pays en Europe de l'Est qui ont déjà pris des mesures très choquantes par rapport à ça. En France, nous sommes encore avec notre droit.
Et encore, on voit beaucoup de gens dans les rues qui luttent contre l'IVG, ou encore aujourd'hui en France, et ça augmente.
Bien sûr, c'est un droit qui n'est pas totalement acquis, et comme nous pouvons le voir de l'autre côté du Pacifique, c'est quelque chose qui est bancal. C'est un droit qui est bancal.
C'est aussi ahurissant de savoir que nous vivons sur le même continent que la Tchétchénie, qui met à mort des homosexuels.
Ah mais bien sûr, c'est un autre sujet.
Oui, c'est un autre sujet, mais c'est une peine de mort.
Ça relève des
quelque
droits
chose
de l'homme.
Qu'on n'imagine pas ici dans des pays de l'Europe occidentale comme
mais
ça.
Mais va leur dire, eux, ils ne pensent même pas avoir des homosexuels dans leur pays.
Oui, bien sûr, ce sont des choses qui sont totalement mises de côté. Par exemple, le fait qu'il puisse y avoir une minorité homosexuelle qui n'est plus une minorité dans le monde, vu que les gens font ce qu'ils veulent et les gens ont le droit d'exister tels qu'ils sont. Sont battus, enfermés dans de telles conditions, et des femmes qui ne peuvent même plus être en accord avec elles-mêmes. J'ai d'ailleurs préparé une petite revue de presse que je vais vous dire,
Vas-y.
Si vous me le permettez.
Je t'en prie, Shana.
Alors, c'est-à-dire que le projet de loi a été discuté les 8 et 9 avril devant la commission de la justice et du droit civil de la Texas House, bien qu'il ait peu de chances de voir le jour, heureusement, j'ai envie de dire, il représente un véritable danger pour les droits des femmes, menacés depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Donc après le Mississippi qui a adopté une des lois les plus contraignantes en matière d'IVG, c'est désormais au Texas que le droit à l'avortement est menacé. Un projet de loi anti-IVG, c'est désormais au Texas que le droit à l'avortement est menacé. Un projet de loi anti-IVG proposé pour la première fois en 2017, puis abandonné, a été débattu cette semaine par la législature texane, rapporte le Washington Post, qui est un journal américain. Le contenu, l'avortement, serait considéré comme un homicide et donc potentiellement passible de la peine de mort. Durant le débat, qui s'est tenu les 8 et 9 avril devant la commission de la justice et du droit civil de la Texas House, plus de 446 personnes ont exprimé leur soutien à ce projet de loi, rapporte The Cute, qui est également
Un journal américain.
Journal américain, merci. En guise d'argument, l'un d'entre eux a comparé l'avortement à un génocide, carrément. Et une femme a fait valoir qu'il manquait des milliards de dollars aux contribuables, car les fœtus avortés ne seront jamais imposables. Nous voyons que nous sommes carrément dans une société libérale, dans un système complètement
c'est
libéral.
C'est quel article tu nous as lu, là ?
C'est un article du journal The Cute.
The Cute.
The Cute.
Le mignon en français.
Non, The Cut, pardon.
Ah, The Cut, ok. Donc, la coupe.
De plus, le projet a depuis été laissé en suspense, bien qu'il ait peu de chances de voir le jour. Il représente un véritable danger pour les droits des femmes, particulièrement menacés depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. En mars, les députés de l'État de Géorgie, dans le sud des États-Unis, ont voté une loi anti-avortement. Les députés de l'État de Géorgie, dans le sud des États-Unis, ont voté une loi anti-avortement, la plus contraignante du pays en matière de période possible d'intervention. Idem au Mississippi, où l'IVG est désormais interdite dès lors d'un rythme cardiaque et détectable chez l'embryon, ce qui advient à partir de la sixième semaine de grossesse en général. En novembre 2018, les électeurs de l'Alabama approuvaient un amendement de la Constitution de l'État donnant les mêmes droits à un fœtus qu'à une personne, ne protégeant ainsi plus de droit à l'avortement, y compris en cas de viol, d'inceste ou de danger pour la vie d'une mère.
Bah voilà, merci Shana. Donc, tu nous as donné donc, ton point de vue et ainsi que la lecture donc, de ce magazine qu'on a, The Cut, c'est ça ?
Exactement.
D'accord. Donc on passe maintenant à Lilou. Donc on traverse l'Atlantique, on quitte les États-Unis et on revient en France pour parler d'un homme d'une grande personnalité qui lui rêvait d'être américain.
Alors moi j'ai choisi de vous parler pour notre grande première de Dick Rivers. Comme vous le savez, il nous a quittés hier, mais aujourd'hui je ne vais pas vous parler de sa mort, mais de sa vie. Pour cela, je suis allée vous interroger dans la rue et voici ce qu'on m'a répondu.
Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Lilia.
Connaissez-vous Dick Rivers ?
Je le connais de nom, mais c'est vrai que j'ai appris la nouvelle concernant sa mort. J'en suis désolée, c'était un chanteur apprécié par mes parents notamment, même si c'est pas vraiment de ma génération, j'aime beaucoup et c'est vraiment triste pour la culture française qui est de perdre un élément important dans sa culture musicale.
C'est quelque chose qui vous touche ?
Bon, je dirais pas que ça me touche, mais c'est vrai que je trouve ça triste. D'autant plus quand c'est une personne qui est autant appréciée des Français et du monde en général. C'est un peu l'Elvis Presley français. Je connaissais quelques-unes de ses chansons parce que je les avais dans un coin de ma tête grâce à mes parents. Mais sinon, non, j'y suis pas allée de moi-même vérifier ce qu'il a pu faire.
Alors, Dick Rivers, Elvis Presley français ou pas, qui est ce rocker oublié des nouvelles générations ? Dick Rivers, de son vrai nom Hervé Fornery, c'est d'abord 50 ans de carrière et une trentaine d'albums. C'est un homme qui, très jeune, découvre le blues et le rock'n'roll au contact de militaires américains. Son nom de scène lui vient du personnage incarné par Elvis Presley, Dickie Rivers, dans le film Loving You de 1957. Elvis Presley qui est d'ailleurs son modèle. Il se fait connaître avec son groupe Les Chats Sauvages, dont il est le chanteur. D'ailleurs, la chanson qui leur fait gagner en visibilité est Twist à Saint-Tropez. Je vous propose d'écouter.
C'est là que commencent toutes les danses qu'on lance en France pour les vacances d'Ouest à Saint-Tropez. On est toujours en avance à Saint-Tropez.
Nous continuons toujours sur notre petite biographie de ce personnage qu'est Dick Rivers. Il passe donc une grande partie de sa vie avec les Chats Sauvages, pour ensuite, après 2 ans de succès, se lancer en solo avec l'album Baby John de 1962. Couronné de succès, il travaillera avec les plus grands du métier. Je vous propose d'ailleurs d'écouter une de ses autres chansons dont on se rappelle encore, Nice, Baie des Anges.
En
pigeon noir parfait, un loupard comme dans vos rêves. Et c'était le bon temps.
Alors, on voit que certains aiment toujours sa musique. Alors, pour certains, il est considéré comme un des trois piliers du rock français avec Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. Pourtant, aujourd'hui, il est présenté comme un chanteur incompris et se surnommait lui-même le troisième larron du rock français. Pour ceux qui ne savent pas, le terme larron est plutôt péjoratif. Il désigne un voleur. C'est vrai qu'à l'époque des chats sauvages, il était déjà en compétition avec les chaussettes noires, avec pour leader Eddie Mitchell. On peut donc dire qu'il avait de sérieux rivaux. Aujourd'hui, de nombreuses personnes lui rendent hommage. Alors, Bastien, Chana, le connaissez-vous ?
Pour être honnête, je connaissais de nom, mais les musiques, pas du tout.
Et moi, pour être également honnête, je ne le connaissais pas du tout, ni de nom, ni de voix. Mais pourtant, j'ai bien aimé les extraits que nous avons écoutés.
Mais c'est vrai que c'est une personne qui était un petit peu oubliée par le temps, je trouve. Parce que autant Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, tu oui, fais oui, oui, ah, ouais. Lui, je connais ce morceau, ah oui, c'est ouais. Lui, ah oui, c'est
des
ça,
noms que nous connaissons.
Mais là, même quand on écoute les musiques, on est là en mode, ah, ouais. Alors, mais, je connaissais pas.
Mais peut-être que c'est surtout parce que ce n'est pas notre génération. Moi, personnellement, mes parents écoutaient pas Dick Rivers lui-même, mais surtout son groupe Les Chats Sauvages. Et c'est vrai que, comme ça, nous, on ne s'en rappelle pas.
Eh bien, merci Lilou pour cette présentation du Elvis Presley français.
Et... Ou peut-être que la réponse n'est qu'il n'est pas l'Elvis Presley français et qu'il a été surpassé par d'autres, je ne sais pas. À vous d'en décider.
Merci, merci Lilou. Tout de suite, on va faire une petite pause musicale. Je vous ai choisi une musique qui s'appelle « Everybody got a line sometimes » de ce cher Beck, Beck qui reprend cette musique. Cette musique vient du générique de fin de « Eternal Sunshine of the Spotless Mind », un film de 2004 réalisé par Michel Gondry. Un véritable chef-d'œuvre que je vous conseille évidemment d'aller voir. De toute façon, il est disponible sur Netflix, alors si vous ne l'avez pas vu, courez et y allez maintenant.
Change your heart, look around you, change your heart, it will astound you. And I need your loving like the sunshine. Change your heart, look around you, change your heart, it will astound you, I need your loving. Sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Thank you.
Quelle musique, toujours autant de frissons. Donc nous revenons maintenant à nos sujets. Et moi, je vous ai préparé une petite actualité qu'on retrouve dans notre merveilleuse ville, la plus belle ville de France, vous serez toutes d'accord, qui est Toulouse. Alors, notre cher maire Jean-Luc Moudin a annoncé avec 12 autres maires, parmi lesquels Anne Hidalgo, maire de Paris, ils ont fait une sorte de lettre ouverte où ils ont dénoncé la situation indigne des migrants en France et réclamé à l'État des places d'hébergement supplémentaires. Par rapport à cette actualité, j'ai demandé donc à ma chère Lilou d'aller poser une question à notre entourage pour savoir quel était leur ressenti sur cette affaire.
Bonjour.
Bonjour.
Tu t'appelles comment ?
Je m'appelle Hugo.
Alors Hugo, que penses-tu de l'accueil des migrants à Toulouse ?
Ben, disons que je me sens pas vraiment concerné parce que j'entends pas toutes ces infos. Je suis pas trop l'actualité. Je suis pas mise au courant.
T'as entendu quoi sur les migrants ?
Qu'est-ce que j'ai entendu sur les migrants ? Ben, je sais que bon, ils sont pas très bien accueillis. Déjà, avec l'Aquarius, j'en ai entendu parler que ben, c'était un peu compliqué parce qu'aucun pays voulait les accueillir. Et que je trouve ça un peu hypocrite, en fait, pour un pays qui se considère comme le pays des droits de l'homme et de l'égalité. Mais je pense qu'on se centre trop sur des choses qui n'ont pas forcément... Comment expliquer ? Ben, par exemple, je vais donner comme exemple Notre-Dame, qui est une tragédie en soi. En vrai, perdre un monument comme ça, ça fait mal au cœur de tous les Français. Je pense que ça a été un peu trop médiatisé, on a un peu trop tourné la tête là-dessus, alors que ben, y a des problèmes qui persistent et... L'immigration, c'est un sujet universel, c'est pas qu'en France, dans tous les cas. Je pense qu'il y a un manque d'informations. Enfin, il n'y a pas un manque d'informations, parce que les informations, on les a, et aussi, il faut aller les chercher. Mais justement, on ne nous amène pas les bonnes informations.
Bon, bah merci beaucoup,
Hugo. Ah ben, il n'y a pas de souci, ça m'a fait plaisir.
Nous sommes très contents d'avoir ton avis, Hugo. Alors, je vais te poser une question, Lilou. Toi, je sais que tu as l'habitude de côtoyer des migrants, notamment avec ton père qui travaille à la Croix-Rouge.
Oui, alors c'est bien plus que des migrants, c'est-à-dire que c'est toutes les personnes qui sont à la rue, à la Croix-Rouge.
Tu peux nous parler un petit peu de ton expérience et essayer d'établir ensemble, d'après ta vision, quel est le portrait que tu fais des migrants à Toulouse ?
Alors, effectivement, je suis allée dans certains établissements de Toulouse et effectivement, c'est très mal organisé, c'est-à-dire que si on considère qu'il y a les migrants... C'est aussi toutes sortes de personnes avec des cultures totalement différentes qui se côtoient dans des conditions extrêmes et pas forcément toujours agréables, dans des établissements parfois lugubres et dans de mauvaises conditions, qui parfois, rien que dormir dans cet établissement, ils sont en danger. Donc c'est très compliqué, il y a beaucoup d'émotions quand on va là-bas, c'est réellement un gros problème de voir toutes ces personnes qui sont mal. Et bien sûr, quand il y a différentes cultures, des personnes à cran, etc., ben, y a des conflits. Et que ce soit les conditions de vie ou les comportements, ben, tout ça, ça crée pas mal de soucis. Là, c'est surtout qu'ils peuvent dire que c'est enfin le moment de parler, mais pour le moment, personne n'agit. Je pense qu'on est plus dans un gouvernement en ce moment qui est libéral et pas trop social. Et quand on pense à toutes les conditions qui font que plus ça ira, plus on aura des migrants en France, il faut aussi calculer comment les accueillir. Et ça reste toujours des êtres humains, comme on l'a vu quand on a accueilli des gens ici sur le plateau qui ont en souffert de ces problèmes dans des pays.
Elle fait évidemment référence à Kwame qui était dans l'émission Traversée avec Moreto.
Quand on voit ce genre de personnes, on comprend que c'est des êtres humains qui ont une façon... de penser, une façon de vivre et qui sont comme nous. Et pourtant, on les accueille comme des moins que rien ici.
Shana ?
Oui, justement, je tenais à dire, comme tu l'as fait référence, Bastien, quand Kwame est venu sur le plateau lors de l'émission, c'était véritablement
un moment humain. Quoi.
C'était complètement humain. Il nous a expliqué avec ses mots et on a pu voir en face mettre un visage, mettre des mots sur le mot que nous avons entendu depuis des années, que nous entendons à tort et à travers aux informations ou à la télévision, qui est le mot migrant. Enfin, nous avons pu nous rendre compte. Enfin, moi, ça m'a fait vraiment me rendre compte de choses et relativiser sur ma vie.
C'est déjà la fin de notre émission. Oui. Donc, retrouvez-nous, peut-être, on ne sait pas encore. C'est une émission pilote présentée par les stagiaires qui deviennent animateurs. Et c'est sur Esprit Occitanie. Merci à tous.
Au revoir.
Au revoir.
Ciao.